Olivier Sinclair était un joli homme, pour employer l'expression jadis usitée en Écosse, à l'égard des garçons braves, prompts et alertes. Mais si cette expression lui convenait au moral, il faut avouer qu'elle ne lui convenait pas moins au physique. Dernier rejeton d'une honorable famille d'Édimbourg, ce jeune Athénien de l'Athènes du Nord était le fils d'un ancien conseiller de cette capitale du Midlothian. Sans père ni mère, élevé par son oncle, l'un des quatre baillis de l'administration municipale, il avait fait de bonnes études à l'université. Puis, à l'âge de 20 ans, un peu de fortune, lui assurant au moins l'indépendance, curieux de voir le monde, il visita les principaux États de l'Europe, l'Inde, l'Amérique, et la célèbre revue d'Édimbourg ne refusa pas en quelques occasions de publier ses notes de voyage. Peintre distingué, qui aurait pu vendre ses œuvres à haut prix s'il l'eût voulu, poète à ses heures, et qui ne le serait à un âge où toute l'existence vous sourit. Cœur chaud, nature artiste, il était pour plaire et plaisait sans pause ni fatuité. Il est facile de se marier dans la capitale de la Vieille-Calédonie. En effet, les sexes y sont en proportion très inégale et le faible numériquement l'emporte de beaucoup sur le fort. Aussi, un jeune homme instruit, aimable comme il faut, fort bien de sa personne, ne peut-il manquer d'y trouver plus d'une héritière à son goût. Et cependant, Olivier Sinclair, à 26 ans, ne semblait pas encore avoir éprouvé le besoin de vivre à deux. Le sentier de la vie lui paraissait-il donc trop étroit pour y marcher coude à coude ? Non, sans doute. Mais il est plus probable qu'il se trouvait mieux d'aller seul, de prendre par les chemins de traverse, de courir à sa fantaisie, surtout avec ses goûts d'artiste et de voyageur. Pourtant, Olivier Sinclair était bien fait pour inspirer plus que de la sympathie à quelques jeunes et blondes filles de l'Écosse. Sa taille élégante, sa physionomie ouverte, son air franc, sa mâle figure énergique par les traits, douce par les yeux, la grâce de ses mouvements, la distinction de ses manières, sa parole facile et spirituelle, l'aisance de sa démarche, le sourire de son regard, tout cet ensemble était de nature à charmer. Lui, ne s'en doutait guère, n'étant point fat, ou n'y songeait pas, n'étant point d'humeur à s'enchaîner. D'ailleurs, s'il donnait lieu à ces appréciations flatteuses pour sa personne dans le clan féminin d'Audricky, il ne plaisait pas moins à ses compagnons de jeunesse, à ses camarades de l'université. Suivant la jolie expression gaélique, il était de ceux qui ne tournent jamais le dos ni à un ami ni à un ennemi. Eh bien, ce jour-là, il faut pourtant convenir qu'au moment de l'attaque, il tournait le dos à Miss Campbell. Miss Campbell, il est vrai, n'était ni son ennemi ni son ami. Aussi, dans cette attitude, avait-il pu voir venir la boule si rudement poussée par le maillet de la jeune fille. De là, cet effet d'obus en pleine toile et la culbute de tout son attirail de peintre. Miss Campbell, du premier coup d'œil, avait reconnu son héros du Corrivre-Cane. Mais le héros n'avait point reconnu la jeune passagère du Glengarry. C'est à peine si, pendant la fin de la traversée de l'île Scarba à Oban, il avait aperçu Miss Campbell à bord. Certes, s'il eût su quelle part personnelle lui revenait dans son sauvetage, ne fût-ce que par politesse, il l'aurait plus particulièrement remercié. Mais il l'ignorait encore, et probablement il devait l'ignorer toujours. Et en effet, ce jour même, Miss Campbell défendait, c'est le mot, défendait aussi bien à ses oncles qu'à Dame Bess et à Patridge de faire aucune allusion devant ce jeune homme à ce qui s'était passé à bord du Glengarry avant le sauvetage. Cependant, après l'accident de la boule, les frères Melville avaient rejoint leur nièce, plus décontenancée qu'elle, si c'est possible, et ils commençaient à présenter leurs excuses personnelles au jeune peintre lorsque celui-ci les interrompit en disant « Mademoiselle, messieurs, je vous en prie, croyez que cela n'en vaut pas la peine ?»« Monsieur, dit le frère Sib en insistant, non, nous sommes véritablement désolés, et si le malheur est irréparable, comme cela est à craindre, ajouta le frère Sam, « Ce n'est qu'un accident, ce n'est point un malheur, » répondit en riant le jeune homme. « Un barbouillage, rien de plus, et dont cette boule vengerait, ça fait justice. » Olivier Sinclair disait cela de si bonne humeur que les frères Melville lui auraient volontiers tendu la main sans y mettre plus de cérémonie. En tout cas, ils crurent devoir se présenter réciproquement comme il convient entre gentlemen. « Monsieur Samuel Melville, » dit l'un. « Monsieur Sébastien Melville, » dit l'autre. « Et leur nièce ?» « Miss Campbell, » ajouta Helena, qui ne pensa pas manquer aux convenances en se présentant elle-même. c'était à l'adresse du jeune homme une invitation de décliner ses noms et qualités. « Miss Campbell, messieurs Melville, dit-il avec le plus grand sérieux, je pourrais vous répondre que je m'appelle Fock, comme l'un des piquets de votre croquet, puisque j'ai été touché par la boule, mais je me nomme tout bonnement Olivier Sinclair. » Monsieur Sinclair, répliqua Miss Campbell, qui ne savait trop comment elle devait prendre cette réponse, veuillez une dernière fois recevoir toutes mes excuses. Et les nôtres, ajoutèrent les frères Melville. Miss Campbell, reprit Olivier Sinclair, je vous répète que cela n'en vaut pas la peine, je cherchais à obtenir un effet de lame déferlante, et il est probable que votre boule, comme l'éponge, je ne sais plus quel peintre de l'Antiquité, jetée en travers de son tableau, aura produit l'effet que mon pinceau cherchait vainement à rendre. Cela fut dit d'un ton si aimable que Miss Campbell et les frères Melville ne purent s'empêcher de sourire. Quant à la toile qu'Olivier Sinclair ramassa, elle se trouvait hors d'usage et c'était à recommencer. Il est bon d'observer que Aristobulus Ursiclo n'était point venu prendre part à cet échange d'excuses et de politesse. La partie terminée, le jeune savant, très vexé de n'avoir pu mettre ses connaissances théoriques d'accord avec ses aptitudes pratiques, s'était retiré pour rentrer à l'hôtel. On ne devait même pas le voir avant 3 ou 4 jours, car il allait partir pour l'île Luing, une des petites Hébrides situées au sud de l'île de Sail, dont il voulait étudier au point de vue géologique les richesses ardoisières. L'entretien ne pouvait donc être gêné par les interventions explicatives qu'il n'eût point manqué de faire sur la tension des trajectoires ou autres questions relatives à l'accident. Olivier Sinclair apprit alors qu'il n'était pas tout à fait un inconnu pour les hôtes de Caledonian Hotel, et il fut mis au courant des incidents de la traversée. « Quoi, Miss Campbell, et vous, messieurs » s'écria-t-il. « Vous étiez à bord du Glengarry qui m'a repêché si à propos. »« Oui, Monsieur Sinclair. »« Et vous nous avez bien effrayés, » ajouta le frère Sib, « lorsque nous avons aperçu par le plus grand hasard votre embarcation perdue dans les remous du corivre Khan. » « Hasard providentiel, » ajouta le frère Sam, « et très probablement sans l'intervention de... » C'est ici que Miss Campbell fit comprendre d'un signe qu'elle n'entendait point être posée en libératrice. Ce rôle de Notre-Dame des naufragés, elle ne voulait à aucun prix en accepter l'emploi. « Mais, Monsieur Sinclair, » reprit alors le frère Sam, « comment ce vieux pêcheur qui vous accompagnait a-t-il pu être assez imprudent pour s'aventurer dans ces courants ?» « Dont il doit bien connaître les dangers puisqu'il est du pays, » ajouta le frère Sib. « Il ne faut pas l'accuser, messieurs Melville, » répondit Olivier Sinclair. « L'imprudence vient de moi seul, et j'ai cru un instant que j'aurais à me reprocher la mort de ce brave homme. Mais il y avait des couleurs si étonnantes à la surface de ces remous où la mer ressemble à une immense guipure jetée sur un fond de soie bleue. Aussi, sans m'inquiéter du reste, me voilà partie à la recherche de quelques nuances nouvelles au milieu de cette écume imprégnée de lumière. Et alors, j'allais plus avant, toujours plus avant. Mon vieux pêcheur sentait bien le danger, il me faisait des remontrances, il voulait revenir du côté de l'île Jura. Mais je ne l'écoutais guère, si bien que notre embarcation fut enfin prise dans un courant, puis irrésistiblement entraînée vers le gouffre. Nous voulûmes résister à cette attraction. Un coup de mer blessa mon compagnon, qui ne put me venir en aide. Et certainement sans l'arrivée du Glengarry, sans le dévouement de son capitaine, sans l'humanité des passagers, nous serions passés à l'état légendaire, mon matelot et moi, et maintenant catalogués dans le nécrologe du corivre Khan. » Miss Campbell écoutait sans dire un mot et levait parfois ses beaux yeux sur le jeune homme, qui ne cherchait point à la gêner de ses regards. Elle ne put s'empêcher de sourire puisqu'il parla de sa chasse, ou plutôt de sa pêche aux nuances marines. Est-ce qu'elle aussi n'était pas en quête de pareille aventure, un peu moins périlleuse toutefois, la chasse aux nuances célestes, la chasse aux rayons verts ?